journal de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore sur les antennes de Radio Kapi, la fréquence de la paix, pour ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La Cour constitutionnelle a rendu publique la semaine dernière ses décisions en rectification des erreurs matérielles sur les arrêts qui avaient invalidé une trentaine de députés nationaux et sénateurs. Elle a par la même occasion rendu public les résultats définitifs des législatives nationales et sénatoriales. Au regard des événements ayant entouré le processus électoral, plusieurs observateurs estiment nécessaire de procéder à la réforme et de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante avant la tenue des prochaines élections. Qu'en pensez-vous? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine réalisé par J.R. Lungembo. Willem Lungamba est à la mise en onde, Pierrot et la Mégie, c'est pour moi un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Christophe Lutundula, député national et juriste. M. Lutundula, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut dire que le processus électoral, à temps des élections, des contentieux électoraux, a été vraiment mis à rude épreuve, vu ce que ça entraînait comme débat dans l'opinion?
Souffrez que je vous remercie vous-même et la radio Capi pour avoir bien voulu m'inviter à cette émission que je considère essentielle par rapport au problème que vous posez à travers votre question. Nous sommes à un tournant décisif. Effectivement, on a eu 3 cycles électoraux. Je pense que ça n'a pas été la réussite en tout cas. Ça n'a pas permis de réaliser, de faire développer, de consolider la démocratie et la paix civile telle qu'on l'aurait souhaité. Les résultats vraiment sont très très bas. Et nous devons avoir le courage de résoudre les problèmes qui sont posés au lieu de continuer à commettre les mêmes erreurs avec les mêmes modèles, les mêmes antivaleurs, les mêmes travers, les mêmes frustrations et les mêmes contestations.
Alors, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut un certain nombre de réformes partant de la Cour constitutionnelle à la CENI. On va revenir sur la CENI et surtout les dossiers tels qu'on a vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle avec l'examen des contentieux législatives nationales. Est-ce qu'il est impérieux aujourd'hui d'opérer un certain nombre de réformes pour la Cour constitutionnelle?
Oui, il est absolument nécessaire et de ce point de vue-là, je n'en veux pour preuve que le constat fait par le président de la République et lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous rappellerez que lors de son point de presse en Ituri, je crois, et même devant l'interview avec les journalistes de RFI et de France 24, le chef de l'État a souligné la nécessité, j'allais ajouter l'urgence, de procéder à la réforme du système électoral. Par ailleurs, si nous prenons quelques paramètres, cela est vraiment établi à l'évidence. D'abord, regardez les volumes du contentieux électoral. Je rappelle que au premier rendez-vous électoral, je crois de 2006, si je ne m'abuse, le volume du contentieux était de 300 recours. En 2011, le contentieux est monté à 600 recours. Et aujourd'hui, les élections de 2018, il est allé à plus de 1200 recours. Si vous prenez le point de départ jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est multiplié par au moins 4. Donc, une progression exponentielle. On peut prendre encore un autre paramètre. C'est le processus lui-même. Et aux premières élections, au premier cycle, on a affiché les résultats, on a fait la compilation. Je vous en parle avec autorité parce que moi-même, j'ai été candidat à tous les cycles. Et ça s'est fait plus ou moins conformément à la loi électorale. Au deuxième processus, il y a eu compilation, il y a eu résultats affichés dans le bureau de vote. Cette fois-ci, on n'a pas affiché de résultat. La compilation ne s'est pas terminée et dans plus de la majorité des bureaux de vote ou des centres de circonscriptions électorales, il n'y a pas même eu compilation. Donc, on a eu un processus électoral qui, de bout en bout, s'est opéré, s'est déroulé en violation de la loi. Je dis bien de bout en bout. Et d'ailleurs, même les chefs de l'État actuels, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, dans une de ses interviews, a dit qu'effectivement, le processus, je dis bien le processus, a été maillé des irrégularités. Donc, il n'est qu'à prendre ces quelques paramètres pour se rendre compte que l'urgence et la nécessité de la réforme sont là. Je voudrais, à ce sujet, souligner que les élections, c'est pas seulement une question de démocratie, et une question de l'égalité. C'est une question de paix civile. Et c'est une question vitale dans la mesure où, comme on dit, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite, et dans la mesure où, finalement, le politique tient tout en état. Et aujourd'hui, dans notre pays, il est incontestable que le problème que nous avons, c'est le problème des leaderships, de la base au sommet, ou du sommet à la base, comme on veut. Donc, tant qu'on ne résout pas l'équation du leadership, de la gouvernance de notre pays, que quelle que soit l'importance de nos potentialités naturelles, de nos ressources naturelles, eh bien, le pays ne va pas décoller.
Mais parce que vous avez dit que il est impérieux de passer aux réformes, cela veut dire que l'organisation des élections, y compris les contentieux, c'est l'ensemble du processus. Cela veut dire que la réforme doit partir de la CENI en tant qu'organe, ou de la loi qui organise le déroulement des opérations, mais aussi des organes qui examinent les contentieux, parce que les contestations et les débats, c'est de l'organisation des élections jusqu'à l'examen des contentieux.
Et c'est pour ça que moi je parle du système électoral. Et le chef de l'État a utilisé le même concept.
Exactement.
Le système électoral comprend quoi? À l'origine, vous avez l'enrôlement, vous avez la loi électorale qui donne le processus, l'éligibilité, les dépôts de candidature, les dépouillements, la proclamation de résultats, le contentieux. Le système électoral comprend encore quoi? Le pouvoir organisateur. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient la CENI. Mais je souligne tout de suite que le pouvoir organisateur, bien sûr que la CENI a le leadership du pouvoir organisateur. Mais il y a le Parlement qui vote les lois. Il y a le gouvernement qui donne de l'argent, qui sécurise les élections, qui doit veiller au respect des droits de l'homme, qui doit veiller au respect de la loi portant statut de l'opposition, qui doit faire en sorte que la campagne se déroule bien. Et je dirais même l'exécutif qui débloque. Et je n'ai même pas besoin de démonstration parce que si on est allé jusqu'à pratiquement 2 ou 3 ans ou un processus pratiquement de 4 ans, c'est parce qu'on nous a toujours chanté qu'il n'y a pas de l'argent. Alors qu'à l'Assemblée, c'est un député qui vous parle. De plus de 25 ans, je suis député. On a toujours voté le budget. Je vous ai toujours dit ça, même à la radio au Capé ici. Donc le pouvoir organisateur, c'est tout cela. Le système électoral, alors, c'est le contentieux électoral dont nous parlons aujourd'hui avec ce à quoi nous venons d'assister. C'est la première fois dans ce pays, et c'est rare à travers le monde, que des décisions de recours ou des décisions d'une haute cour comme la Cour constitutionnelle font l'objet d'une contestation généralisée. On a vu à la télé, on a entendu Radio Okapi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous devons considérer que c'est l'ensemble du système électoral qu'il faut voir.
Et
certainement, c'est pas à l'émission qu'on va tout terminer. On va aborder point par point jusqu'au moment où...
Voilà. Mais si je voudrais que dans cette émission, on examine 2 éléments. Avant de revenir à la réforme de la CENI, je voudrais qu'on fasse, qu'on ouvre une parenthèse sur les contentieux avec la Cour constitutionnelle. Je vous ai suivi dans une interview à la fin de la publication de résultats définitifs à la Cour constitutionnelle. Vous avez proposé la réforme en ce qui concerne les examen d'erreurs matérielles, en souhaitant qu'on ait une chambre d'appel. Est-ce que pensez-vous que cela peut résoudre le problème pour qu'on évite ce qu'on a vécu sur qu'on attaque encore les arrêts de la Cour. En quoi va consister cette réforme-là que je vous ai suivi proposer?
Je voudrais faire une réserve générale, qu'il s'agisse de la CENI, de la loi électorale ou de la Cour constitutionnelle. Il y a fondamentalement un problème qui touche aux hommes. Mmh. Les institutions ne valent que ce que valent ceux qui les animent, les dirigent. Donc nous sommes, il faut le dire, dans une société qui est en déchéance morale. Et comme je le dis à une interview, nous sommes pratiquement au summum de l'immoralité au niveau des institutions. Donc, je voudrais que cette réserve soit prise en compte. Je veux dire tout simplement que du côté des hommes, des animateurs, de ceux qui ont la mission de dire le droit, de faire le droit, d'exécuter les lois, il y a des choses qu'il faut retoucher de ce côté-là. Mmh. Ceci dit, maintenant les réformes, pour l'instant, bien sûr qu'il y a beaucoup de spécialistes. Je ne suis pas un grand spécialiste de droit judiciaire, pas même de droit constitutionnel. Je suis un simple juriste perdu dans la masse des députés à l'Assemblée nationale. Je ne fais pas de la fausse modestie. Mais aujourd'hui, ce qui frappe directement, c'est ceci. Un, nous avons le problème de recours. Mmh. Et ici, c'est un problème qui touche aussi aux droits fondamentaux. Le droit de recours, reconnu dans la Constitution de la République, reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et reconnu par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, même la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections. C'est-à-dire que nous avons chaque candidat, chaque parti politique, regroupement qui présente les candidats, a le droit de recourir contre une décision de justice portant sur sa contestation. Mmh. Et ici, notre système, si c'est la Cour, je prends le général, la Cour suprême, la Cour de cassation, la Cour de cassation, la Cour suprême n'existe plus, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, si ce sont ces juridictions qui rendent une décision judiciaire, un arrêt, c'est sans recours. Vous comprenez? Et c'est un peu, pas un peu, c'est une injustice. C'est pas parce que vous êtes candidat président de la République, candidat député, qu'on doit vous rendre une décision sur votre contestation en premier et dernier ressort, une fois pour toutes. Et c'est à quoi nous venons d'assister à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, qui, au niveau du recours en correction d'erreurs matérielles prévues par la loi électorale, l'article 74, c'est l'article 75, et par la loi organisée fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure de recours en rectification d'erreurs matérielles est prévue. Mais les arrêts qui viennent d'être rendus il y a quelques heures, mmh, ou quelques jours, ont démontré que ce recours n'est pas suffisant. Parce que sur le plan purement technique, on peut discuter de cela. Est-ce que la correction d'erreurs matérielles peut conduire à la modification du fond du dispositif? D'autant plus que, bon, écoutez, l'article 75 de la loi électorale n'est pas très clair, parce que c'est dit que, bon, si on constate qu'il y a erreur matérielle, il faut rectifier le résultat. Vous voyez? Alors, mm-hmm, pour être clair, et pour reconnaître à tout Congolais, quel que soit l'échelon où il est candidat, le droit de recourir, le bénéfice d'une justice, d'un procès équitable, le double degré de juridiction, mm-hmm, nous disons que il faut faire comme à la Cour pénale internationale, avoir une chambre d'appel à l'intérieur de la Cour. C'est pas nécessaire de toucher à la Constitution. Mm-hmm. Parce qu'on est, très frileux par rapport à la Constitution. Oui. Vous comprenez? Mm-hmm. Et je suis heureux parce que je vois du côté des FCC, le gouverneur Paluku, mon collègue député.
D'ailleurs, tout ce que j'allais vous demander tout à l'heure, votre réaction par rapport à sa proposition d'ailleurs.
Je m'en réjouis parce qu'il m'a suivi. Et j'apprécie ça.
Il a même dit sur les antennes de Radio Capi ce matin.
J'apprécie. J'ai suivi tout ce qu'il a dit. Ouais. J'apprécie son courage. Parce qu'il est du FCC, il n'est pas évident que le FCC va acquiescer à toutes les réformes que nous proposons. Mmh. Donc, ça devient une nécessité. Lui, il a même parlé d'augmenter le nombre de magistrats. Je crois qu'il a raison. Mmh. Il a raison parce que, bon, la fois dernière,
Mettez-vous ensemble à proposer ça.
Oui, on peut tout dire. Mais quand vous soumettez à 7 magistrats, parce que le président ne siège pas, mmh, bon, il y avait à pratiquement ces 7, vous leur soumettez 1200 recours au moins. Vous divisez, vous n'avez pas 2 mois. C'est plus de 2 mois. Donc, il y a lieu de réfléchir. Vous demandez si on peut s'associer. C'est la République. C'est l'intérêt du peuple. Il n'y a pas de famille politique à ça.
Avant d'écouter les auditeurs, lui, il a même pensé qu'il faut aussi revoir le mode de désignation. que le juge soit plus indépendant plutôt que recourir au quota des partis politiques par rapport à la Cour constitutionnelle.
Non, pour la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de quota politique. Il est dit clairement que le président de la République désigne 3, les pairs, les magistrats eux-mêmes sortent 3, le Parlement sort 3. Ce qu'il y a, et là je rencontre Julien Paluku, rappelez-vous, aux dernières nominations à la Cour constitutionnelle, il y a eu des problèmes au Parlement. Lorsque nous réunissons en congrès, la manière de tout cela s'est fait est tout à fait en dehors de l'esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, où le président de l'Assemblée et celui du Sénat se retrouvent, ils se répartissent les quotas, un là-bas, deux là-bas, et puis on nous amène dans une pièce de théâtre où vous êtes là assis, il n'y a pas de questions, on vous dit tel, on est présent. La fois dernière, on n'a même pas présenté les curriculum vitae des personnes concernées, alors que c'était des personnes acceptables et compétentes. Là, voilà. Il a raison, mais il n'y a pas de répartition par famille politique.
Voilà, on va revenir à vous, c'est vraiment intéressant. On va aussi entrer en profondeur sur la question de la CENI. Amos, vous êtes à Bukavu, Dieudonné Tamahagi, merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Amos, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Certes, je tiens à saluer l'invité d'aujourd'hui. En fait, c'est un sujet tellement intéressant, mais ma préoccupation est que, apparemment, le peuple congolais n'a pas de chance. Pourquoi je le dis? Parce que sous notre ciel, la justice élève la nation. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Et on constate avec beaucoup de regrets, Pierrot, que la plupart des fois, notre justice est manipulée par les politiques. Au lieu qu'elle fasse mieux son travail, et au lieu qu'elle soit au-dessus de la mêlée pour permettre à la nation d'avancer, elle se laisse manipuler par les politiques. Et voilà notre malheur aujourd'hui, disons-nous à la base. Nous tous, nous avons suivi ce qui s'est passé à la Cour. D'abord, partant de l'article 168 de la Constitution. Moi, je pense bien que ce que la Cour a fait, vraiment, c'est tellement déshonorant. On ne parvient pas à comprendre, Pierrot. Je venais de suivre l'invité, il a parlé que oui, il peut y avoir des erreurs matérielles. Acceptons qu'il pourrait y avoir des erreurs matérielles pour un cas, deux cas ou même jusqu'à cinq cas. Mais avec tous ces cas qu'on a connus, comment peut-on parler qu'à la Cour, il y a des juges compétents et en l'occurrence, tous sont des professeurs. C'est ce qui dérange. Ce qui dérange. Nous pensons que le comportement de nos juges prouve à suffisance réellement que cette Cour constitutionnelle mérite d'être chambardée pour qu'on ait d'autres éléments pour pouvoir réellement être au service de la nation. Nous constatons que ces juges ont été corrompus. J'ai suivi Julien Paluku. Et c'est mais lui-même aussi n'est pas d'accord avec cette Cour, au moment où, en majorité, cette Cour serait DFCC. Mais comment comprendre que même les gens du FCC aussi ne sont plus même d'accord avec cette Cour? Ce qui se fait vraiment, ni tété la population qui a organisé des marches, ça et là, il y a eu même des casses, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Je pense que la Cour ne devait pas venir à la raison, mais on constate que par rapport à la pression populaire, voilà pourquoi on a repêché certains élus qui étaient déjà invalidés. Et ça, c'est très grave. Nous pensons que si du moins, le changement pour lequel nous nous sommes bâtis au prix même de nos vies est réellement en application, nous attendons que ces juges soient radiés et qu'ils passent le reste de leur vie en prison. Parce que c'est inacceptable que dans un État qui s'appelle démocratique, qu'on soit en train de vivre de telles bêtises et qui cause la honte à toute une nation, à tout un peuple. Vraiment, Pierrot, nous sommes tellement déçus.
Merci beaucoup, Amos. Merci, Amos. Vous avez souhaité même qu'on ait un changement total au niveau de la Cour constitutionnelle, mais c'est aussi les débats où il y a un mois, nous avons eu les débats où les auditeurs estimaient aussi que la question électorale, parce que c'est un processus, il faut aussi un changement total à la CENI. On va en parler avec notre invité tout à l'heure. Faudrait-il changer des hommes, le remplacer par les autres? Est-ce que ça va résoudre le problème aujourd'hui que nous avons? Dieudonné, vous êtes à Mahagi. Bonjour.
Bonjour Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati, particulièrement mes frères de Mukambo qui suivent maintenant parole aux auditeurs.
On vous écoute.
Merci de m'avoir associé de nouveau à ce débat. Et avant tout, nous saluons la reconnaissance de cette Cour parce que je l'ai toujours dit et je continuerai à dire que tout dépend de notre conscience et surtout cette conscience professionnelle, mais aussi la confiance que nous devons avoir de part et d'autre. Et quand nous avons constaté que la Cour a donné son point de vue par rapport aux derrières matérielles, et cette même Cour a réparé ces derrières matérielles, moi je dis que c'est salutaire. Parce que ceux qui ont été invalidés, ils ont écrit, ils ont suivi normalement les consignes pour être rétablis à leur droit. Et la Cour a aussi accepté certaines défaillances. Moi, je dis que vraiment, c'est une très bonne chose. Et nous devons tous consolider cette manière de s'affronter, de s'approcher mutuellement et avoir solution à ce qui compte nous diviser. Parce que dès le premier jour, on avait constaté que certains déjà se préparaient à casser, se préparaient à organiser des manifestations. Certains tenaient des propos presque diffamatoires, mais quand cela n'était, le chef de l'État a récupéré la situation. Et aujourd'hui, nous avons quand même eu ceux qui ont retrouvé leurs droits. Et ceux qui n'ont pas eu à avoir vraiment cette chance d'être élus, ils n'ont pas retrouvé leurs droits. Moi, je dis que c'est salutaire. Mais il ne faut pas aussi qu'on puisse oublier, parce que cette cour-là est constituée des humains. Il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir d'autres débordements. L'essentiel est quand la personne est consciente de ce qu'il a posé. Et surtout que la personne a aussi dégagé une piste de solution claire. Moi, je trouve que c'est salutaire. Mais aussi, nous sommes là parce que ceux qui sont là dans la Cour constitutionnelle, ils sont les hommes de la loi. Ils ont étudié la loi. Ils maîtrisent les lois. En tout cas, il ne faut pas qu'ils puissent aussi tomber dans des pièges, qu'ils ne se laissent pas être manipulés, parce que s'ils tirent des ficelles quelque part, même les Congolais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été sur le bas de l'école, Dieu nous a fait grâce. Il y a ceux qui raisonnent aussi, ceux qui ne se laissent pas être dupés. Et je pense que pour le moment, vraiment, il y a cette émergence. Mais je veux revenir encore à la proposition même du chef de l'État qui l'avait souligné, il avait dit qu'il est là pour déboulonner. S'il peut y avoir des juges qui ont été corrompus, ou bien il y a eu des mémoires, c'est au chef de l'État de procéder à cette enquête et évacuer ceux qui sont pour l'intérêt de leurs frères ou sœurs, au lieu de faire l'intérêt général de la population.
Merci beaucoup, Dieudonné. Vous avez évoqué la question. Donc, je reviens directement à Monsieur Christophe Lutundula, notre invité, parce qu'on a parlé des hommes. On a eu le débat il y a un mois sur la question des changements d'hommes, hein, que ce soit à la CENI, comme on le réclame maintenant à la Cour constitutionnelle. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que si on commence à changer les hommes, d'ici le mois de juin, je crois que ceux qui sont à la CENI, ils ont déjà fait leur travail, faudrait-il procéder au changement? Est-ce que dans ces réformes, c'est une question de remplacer de nouvelles personnes à la CENI, tout comme à la Cour constitutionnelle? Commençons d'abord par la CENI.
Non, je voudrais d'abord préciser que dès le départ, j'ai souligné le fait que les hommes comptent beaucoup. J'ai dit que les institutions ne valent que ce que valent ceux qui les animent, qui leur donnent vie, qui leur donnent corps. Et donc, sous ce point-là, moi, je ne pense pas qu'il y a à dissocier ou à minimiser la composante humaine. On peut avoir des bons gestionnaires sans forcément avoir de loi. Vous comprenez? Donc là, et je voudrais rassurer notre ami qui est intervenu le premier pour lui dire que je n'ai pas soutenu les magistrats de la Cour. Je n'ai pas dit ça. Je voudrais dire aussi à l'intention de l'opinion que notre système judiciaire a été tellement verrouillé sur la base de l'idée qu'il faut assurer totalement l'indépendance de la justice, pour ne pas dire de ceux qui disent le droit, ça a été tellement verrouillé qu'il n'est pas facile de radier, parce qu'il a utilisé le terme radier.
Les juges, oui.
Les juges, non, on ne se réveille pas le matin, même pas les chefs de l'État, pour dire tel juge vous partez. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut que tout le monde s'adresse aux magistrats pour leur dire, voilà comment ça se passe, il faut démissionner. C'est ainsi que, par exemple, dans ma famille politique Ensemble pour les changements, le président Pierre Lumbi, intervenant au nom du MS, a dit il y a quelques heures que nous devons tous demander aux magistrats de rendre le tablier. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc là aussi, il faut qu'on se comprenne. Et ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Et ce que j'ai proposé, parce que erreur matérielle, j'ai bien souligné dans mon intervention que le concept d'erreur matérielle tel que c'est utilisé ici, ça peut donner lieu à débat. Et que ce n'est pas cette procédure-là qui est la mieux indiquée. Mm-hmm. C'est pour cela que moi je propose que tout simplement on crée à l'intérieur de la Cour une chambre d'appel en bonne et due forme avec des règles précises et claires. Vous comprenez? Et si on a un nombre de magistrats suffisant, ça veut dire tout simplement ceci de manière simple pour ceux qui nous écoutent. Le contentieux électoral pour le moment, lorsque vous faites votre recours, c'est 3 magistrats qui doivent instruire. Cour d'appel, administratif d'appel, au niveau du Conseil d'État en recours et à tribunal administratif et jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ils rendent leur décision. Quand c'est au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas d'autre recours. Donc, vous ne pouvez pas dire, je conteste la décision, demande qu'on puisse revoir la décision. Si vous avez une chambre d'appel, on va maintenant faire le recours devant une composition différente, ne fût-ce qu'une composition élargie. Élargie pour voir si les 3 magistrats qui ont statué avant avaient raison. C'est pour ça que nous proposons ça pour aller vite en besogne. Alors, vous parlez de la CENI. Oui. Maintenant, j'entends beaucoup de gens qui disent, oui, il faut aller vite. Et je crois que le rapporteur de la CENI a commis la maladresse de défier les gens en disant, le mandat est terminé, mais nous restons jusqu'à la désignation de nos remplaçants. Je sais que c'est à la mode dans notre pays depuis qu'on a eu l'histoire de la présidence. Et c'est regrettable qu'un pays comme le nôtre, avec ce qu'il est supposé avoir d'élite, ce qu'il est supposé avoir, si vous voulez, d'engagement de son peuple pour la démocratie, on puisse avoir des raisonnements de défi, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, malgré tout cela, avant de le faire, il est essentiel de réparer le cadre institutionnel. Et là, pour le moment, ce n'est pas, je vous ai déjà donné des éléments à la loi électorale et tout, les articles 10, 12, de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, nous devons les revisiter. Il y a d'autres articles. Vous avez les articles 13, 16, 17. Le temps nous est compté, je ne veux pas m'étendre là-dessus. De manière résumée, quand vous lisez l'article 12, je vais vous le lire parce que je n'aime jamais parler en l'air. Il est écrit comme suit. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes, reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. Quand vous me prenez, moi, Christophe Lutundula, président d'un parti politique, l'Alliance des démocrates pour le changement, ADP, cofondateur du G7 et vice-président du G7, secrétaire permanent du bureau politique d'ensemble pour le changement, vous me nommez à la CENI comme simple membre et par-dessus le marché comme membre du bureau. Est-ce qu'on respecte cet article? Quand vous prenez un membre actif d'un parti, même au niveau de la section, vous le prenez, vous le mettez secrétaire exécutif provincial, en tout cas membre de structure de gestion des élections, est-ce qu'on respecte la loi? C'est ça la question. Bien sûr qu'il est dit à l'article 10 que la CENI est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de 6 délégués dont 2 femmes par la majorité et de 4 dont une femme par l'opposition. La société civile y est représentée par 3 délégués. D'abord, c'est déséquilibré. La CENI n'est pas que le pouvoir organisateur. La CENI, c'est une institution d'arbitrage. Parce que les élections, c'est une compétition. Ce sont les intérêts qui s'affrontent. Donc la CENI, c'est pour ça que l'article 9, il est clairement dit même dans la Constitution, Commission nationale électorale indépendante.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la composition elle-même de la CENI
elle
pose problème.
Et oui, elle est
elle ne peut pas assurer aujourd'hui l'arbitrage.
Non, il nous faut la neutralité. Et l'indépendance, c'est défini, je ne vais pas vous lire tout le temps la loi, ça me prend du temps. Indépendance vis-à-vis des autres institutions par rapport à la conduite du processus. Indépendance aussi vis-à-vis des forces politiques et sociales, des pouvoirs d'argent. Vous comprenez? Et la CENI doit être impartiale. On ne demande pas aux membres de la CENI d'être des asexués politiques. C'est sémantique soi-même. Chacun a une opinion, même interne. Mais un effort de garantie, un effort d'indépendance, d'impartialité, c'est là la noblesse. Et on a oublié que pendant la période électorale, même après, si le travail est mal fait, la case Congo, le pays peut brûler. Vous ne pouvez pas avoir tout le temps de processus électoral avec de contestations, des frustrations et de la violence. Donc ça, nous devons retravailler. Il faut rééquilibrer. Je plaide pour une représentation égalitaire. 4-4. 4 de l'opposition, 4 de la majorité et 4 de la société civile. Je libelle mal la phrase. C'est-à-dire que ces composantes désignent des personnalités indépendantes. Mmh. Et on peut se mettre d'accord sur cette notion-là. Une autre réforme, le président de la CENI. Ces 3 cycles électoraux nous ont démontré que c'est un personnage clé. C'est vraiment je dis pas la cheville ouvrière, mais vraiment c'est la plaque tournante. Donc, au lieu de se limiter à dire le président est choisi par la société civile, encore que vous le savez, tout le monde le sait, il y a toujours des contestations. Nous pouvons nous mettre d'accord, changer, que maintenant la société civile va proposer un ou deux noms et toutes les parties concernées dégagent un consensus.
Et rapidement, parce qu'il y a
la personne.
Voilà, on va permettre aux auditeurs de parler juste peut-être en un mot. Mais quand vous regardez la loi organisant la CENI, vous regardez bien sûr que le vice-président de la CENI, on a eu le débat à la fois passée, on estime qu'il a beaucoup de pouvoir, que le président de la CENI et le vice-président de la CENI provient de partis politiques. C'est un déséquilibre quand vous regardez
au
niveau de la loi.
Vous ne faites que renforcer. Merci, vous ne faites que renforcer ce que je dis. En fait, qu'elle renforce ce que je dis. Donc, il faut retravailler. Moi, je crois, et si vous voulez, on peut même ajouter, le président, le vice-président de la CENI, le questeur de la CENI, les composantes, dans une première étape, proposent les membres, personnalités indépendantes, aucun engagement politique, je peux me dire, au bout des 10 dernières années, et ces gens-là, toutes les composantes, se retrouvent, société civile,
merci,
classe politique, et on dégage un consensus national sur ce personnage qui, à la limite, est la deuxième personnalité de la République pendant cette période-là, après le chef de l'État. Voilà une proposition que je fais. Et on pourra arriver aussi le contrôle, pour terminer rapidement avec la réforme.
Un mot.
Je vous en prie. L'article 28 de la loi sur la CENI prévoit que la CENI dépose un rapport de gestion chaque année à la session de mars, la session qui va du 15 mars au 15 juin, que nous venons de terminer. D'abord, il n'y a pas eu beaucoup de rapports. Ensuite, les rapports déposés, les bureaux successifs ne les ont pas débattus. Il faut renforcer, ça soit une obligation. L'article 42 prévoit que le Parlement contrôle la gestion de la CENI. Et je demande aux Congolais qui nous écoutent, avez-vous déjà suivi une séance au cours de laquelle on a appelé un dirigeant de la CENI pour nous expliquer, ne fût-ce que la gestion financière.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il faut qu'on ait aussi la conscience d'engager ces débats de fond.
081-890-4969.
On revient à vous, Martin, Albert et Jules. Vous pouvez aussi rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Martin, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Je vous ai vu tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On vous écoute, Martin.
Merci, Pierrot, pour la parole. Est-ce que vous me suivez?
On vous suit.
Hein.
Mais Martin, si vous pouvez arrêter. Oui, Martin, arrêtez votre radio, votre poste récepteur, s'il vous plaît.
La radio Capitale, la radio de la paix. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, monsieur Pierrot, nous sommes un peu déçus du fait que la Cour constitutionnelle, surtout, moi je m'appelle à elle, elle a introduit l'inintrusable dans la justice congolaise. Si vous voyez, vous souvenez que lors de la succession du président de la République sortant, la Cour a interprété de sa manière et son interprétation a posé beaucoup de troubles dans le pays. La même Cour aujourd'hui, lorsqu'il y a des contentieux électoraux, vous verrez qu'il parle des erreurs matérielles. Je donne un exemple. Les erreurs matérielles, donc, ça doit toujours établir sur la forme et non sur le fond. Par exemple, au lieu d'écrire Pierrot et le Ménji, on écrit peut-être Emmanuel Ménji. Donc, peut-être, bon, par mégarde, on a commis une erreur comme ça, on doit rectifier. Mais quand vous prenez un député et ça, on l'invalide en faveur de celui qui est, que l'on voit peut-être, quoi, qui est tenu en mandaka. Et ça, c'est une règle matérielle ou ça, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur des juges, là. Donc, pour paraphraser M. Lutundu, parce qu'il y a mieux parlé aujourd'hui, vraiment, il faut tout réformer. Il faut tout réformer, en tout cas. Parce que en MBC, c'est le problème d'homme. Donc, on doit commencer d'abord par le changement de mentalité, donc tout réformer pour qu'on puisse aller sur les nouvelles
bases. Merci beaucoup, Martin. Martin, vous souhaitez vraiment qu'il y ait une réforme générale, et vous l'avez dit, il faut changement de mentalité. Cela veut dire que on doit avoir d'abord, le débat permet même aux gens de s'inscrire dans la logique, de comprendre qu'il y a des problèmes, et alors qu'il faut procéder à des réformes pour qu'on ait quand même une société, comme il a dit, qui privilégie plus la paix civile. Albert, vous êtes aussi à Kinshasa. Merci d'être avec nous. Bonjour. Albert, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, le temps que Albert se retrouve sur sa ligne, Jules, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Perrault, bonjour à notre invité Lutundula.
Oui, on vous écoute, Jules-Louis.
Allô Perrault.
Oui, on vous écoute.
Donc, par rapport à cette thématique, en tout cas, ça fait la honte. Hein. Donc, nous avons une cour constitutionnelle de la honte. Regardez ce qu'ils ont dit pour ne pas monopoliser la parole. Hein. Ce qu'ils disent que non, il y a une erreur matérielle. Ça, c'est, ce n'est pas vrai, ça. Hein. Il y a beaucoup d'intellectuels là-bas à ce niveau-là. Mais moi, je vais rejoindre mon compatriote de Bukavu, Amos. Ces gens-là doivent passer toute leur vie en prison. Et après, qu'on fasse une réforme. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Pierrot, il ne faut plus commencer à nommer les magistrats de la Cour constitutionnelle. C'est une juridiction, c'est une juridiction qui est la plus prestigieuse dans notre pays. Donc il ne faut pas faire de la blague par rapport à ce.
Et d'ailleurs, vous avez raison. Oui.
Qu'on commence à faire des élections, voyez-vous.
Et c'est important. On revient à vous, Monsieur Christophe Lutundula. Et ça, c'est très important. Les gens voudraient vraiment qu'on vive ces changements d'homme, mais quand même le réforme, que ce soit partant de la CENI, comme vous le proposez, jusqu'à la Cour constitutionnelle, et ça montre quand même que les gens ont les soucis qu'on arrive à cela. Mais est-ce que dans vous, au niveau de la classe politique, avez-vous ce regard? Comme vous l'avez dit, un auditeur l'a dit, Julien Paluku le propose, il est du FCC, et vous le proposez aussi, mais est-ce que au niveau de la classe politique, avez-vous tous le regard qu'il faut réformer pour qu'on ait quand même cette paix civile que vous avez évoquée en début d'émission? Est-ce que tout le monde a le même regard?
Je vous mentirais en vous disant oui, parce que moi, je n'ai pas fait une enquête, je n'ai pas contacté les gens. Mais je note que depuis que j'ai lancé cette campagne de réforme du système électoral, il y a quand même des réactions. J'ai beaucoup de réactions dans ma boîte email, christophe-lutundula@yahoo.fr. Le chef de l'État lui-même en a parlé, si vous parlez des classes politiques. Le président de la République, c'est le premier politicien de la République au sens noble du terme, parce qu'il a la charge, l'article 69 de la Constitution, que nous répétons tout le temps, d'assurer la bonne tenue des institutions et de la République. Et la question peut-être peut être perçue autrement. Est-ce que dans les configurations actuelles de l'Assemblée nationale ou du Sénat...
Les réformes sont-elles possibles?
Voilà. Est-ce que ça va passer? Et là, c'est nous tous qui sommes interpellés. Parce que vous savez, nous avons actuellement des cas qui nous édifient par rapport au rôle du peuple. Regardez l'Algérie, regardez le Soudan, les pays qui sont en mutation. Et on ne voit pas le politicien au devant de la scène. Chaque citoyen, et c'est ça la citoyenneté, a l'obligation de s'assumer par les pressions les plus diverses pour entrer vraiment dans mettre les pieds dans le plat. Les organisations de la société civile. J'ai salué l'initiative de la société civile, les organisations qui s'occupent des élections, ils se sont réunis. Ils ont tiré un certain nombre de conclusions, ils ont fait une proposition. Mais ce que j'ai demandé ici à Radio Okapi et partout, il faut déclencher une dynamique des réformes soutenues par le peuple, par la population, par la société civile, et conduite par les parlementaires, parce que la Constitution limite l'initiative de loi au gouvernement et à chaque député et sénateur. Mm-hmm. C'est pour cela que moi, je suis en train d'élaborer la proposition. Je suis très reconnaissant à Radio Okapi qui me donne l'opportunité de vulgariser cela. Tous ceux qui veulent qu'on avance, partout là il est, les corps sociaux, les ordres professionnels, les syndicats, les journalistes, tout le monde, ça nous concerne parce que je vous ai dit, les élections sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. Quand je suis en campagne, j'ai deux électeurs. Lorsque vous donnez votre voix à quelqu'un, une famille politique, vous lui confiez votre avenir. Le pays est en panne et si la déchéance morale continue, ça ne va pas se relever. Nous n'avons pas vraiment un problème majeur aujourd'hui en dehors de celui de la qualité de nos dirigeants, ce que moi j'appelle le leadership. Et je souhaite, pour revenir à votre question, que tout le monde comprenne. C'est pour ça que je me réjouis que du côté du FCC, il y a déjà la voix de Julien Paluku. Je souhaite qu'il y en ait d'autres voix, que même du côté de l'opposition, de la société civile, que ce courant émerge et qu'on sente qu'il y a une demande politique forte de réforme.
Et dans la dernière assemblée des évêques, la CENCO, ils ont évoqué les termes, la dépolitisation de la CENI.
Oui.
Alors, quand on parle de la dépolitisation de la CENI, comment vous pouvez expliquer ça? Cela veut dire que la CENI ne doit pas, les membres de la CENI ne doivent pas se battre pour les intérêts de leur appartenance politique.
Ça signifie tout simplement qu'il faut respecter l'esprit et la loi. L'esprit et la lettre de la Constitution et de la loi qui parlent toutes de l'indépendance, de la neutralité et de l'impartialité. C'est pour ça que nous proposons déjà une démarche, encore une fois, une énième fois, le tout va reposer dans le choix des hommes. Qu'il s'agisse de la magistrature, qu'il s'agisse de la CENI, qu'il s'agisse des autres composantes pouvoir organisateur, le Parlement, le gouvernement, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux. Si on met des gens qui n'ont pas l'esprit de bien faire, l'esprit de républicain, de démocrate, nous aurons le même résultat.
Exactement.
Ce ne sont pas de lois qui manquent.
On va écouter les trois auditeurs. On revient à vous. Tout à l'heure, quand on préparait cette émission, il y a des confrères de Radio Capi qui ont posé la question sur les sanctions. Est-ce que la Cour constitutionnelle prévoit-elle des sanctions pour ces membres qui auront été accusés? On va revenir à cette question, votre réaction. Justin, vous êtes à Calémi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est effectivement Justin Mobambo qui vous appelle à partir de Calémi. Je salue la décision ou la proposition de ceux qui ont pensé que la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, doivent être remplacés. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Tout simplement parce que la Cour constitutionnelle démontre ses limites dans l'exercice de ses fonctions. Autrefois, nous avions dit sur vos antennes, monsieur le journaliste, que la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, cette décision, elle a été prise en violation stricte de la loi, au-delà de 2 mois, contre Alleghen. Et là, nous avons dit, certainement à partir de cette époque-là, que la Cour constitutionnelle, cette décision avait été très, très mal rendue. Et au-delà de ça, monsieur le journaliste, moi je proposerais qu'on ne puisse plus parler des erreurs matériel. Moi, je voulais qu'on parle des erreurs de procédure. Ce que vous parlez en termes d'erreurs matérielles, c'est au niveau soit de nom, soit je ne sais pas comment les juristes sont informés par rapport à ça. Mais ici, nous avons plus de 30 députés qui ont été remis dans leurs droits. Est-ce qu'on peut encore parler des erreurs matérielles? Et là, ça ne va pas. Or, il y a un principe juridique qui dit une double erreur, c'est-à-dire le but profite à l'accusé. Vous allez certainement vous rendre compte que la décision prise par la Cour constitutionnelle, c'est une décision qui émane autant de doutes tout autour.
Alors, mais quand vous avez suivi le débat, Justin, si vous avez suivi les débats et les différentes propositions, on estime que ce qui est passé vient de passer. S'il doit projeter dans l'avenir, c'est pourquoi notre invité, comme le député Julien Paluku, propose qu'on puisse organiser autrement au sein de la Cour une chambre d'appel, une chambre spéciale. Parce que Julien Paluku a évoqué aussi le cas de la CPI, qui peut examiner, mais parce que ce qui est passé est déjà passé, mais là on se regarde dans l'avenir, faudrait-il améliorer pour éviter qu'on retombe encore dans les situations qu'on a vécues. Pascal, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour monsieur, j'ai une petite question là. Ma question est dans notre culture constitutionnelle congolaise, vraiment très malade, premièrement. Et si vous croyez, monsieur, est-ce que la contestation des irrégularités de la VDE, il vient vraiment de démontrer dans avec cette procédure électorale. au moment que les élections étaient le choix du peuple congolais. Mais la procédure que même M. Taloko vient de dire qu'il va saisir le secours-là du Haut-Cœur africain du Parlement, mais
Là, on a des petits soucis. On a des petits soucis, hein, Pascal. Dommage, on a des petits soucis hein, sur votre ligne. Hein. Vous avez posé la question de savoir si, bon, c'est parce que le Julien Paluku a annoncé hein, qu'ils pourront aller au-delà pour qu'on saisir la Cour africaine, je crois, de droits de l'homme. Il a expliqué ça ce matin dans l'invité sur Radio Okapi. C'est la question que vous avez posée pour savoir si cela est juridique, si ça peut avoir une solution par rapport aux revendications de son regroupement politique face à ce que la Cour a pu faire. Mais dommage qu'on n'a pas pu suivre en profondeur votre réaction à cause de la qualité de l'intervention. On reste à Lubumbashi avec vous, Jean. Bonjour, Jean.
Bonjour Radio Okapi. Monsieur, moi, c'est Monsieur Jean Chomba à Lubumbashi. J'ai suivi avec attention l'intervention de l'honorable et même de l'honorable Julien Paluku proposant des réformes au sein de la Cour constitutionnelle. Et moi, je me dis que parfois, on parle d'une chose et de son contraire à la fois. Tout à l'heure, je venais de suivre l'intervenant sur le plateau qui disait que les institutions ne valent que ce que valent leurs animateurs. Alors, dès lors qu'on admet cela, comment comprendre aujourd'hui qu'on nous propose qu'au sein de la Cour constitutionnelle, on puisse créer une deuxième chambre? Avec quel genre d'animateur? Parce que lorsque les gens recourent à la Cour constitutionnelle, c'est une voie de recours après une instance précédente. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas été satisfaits avec le verdict rendu au premier échelon, maintenant ils recourent à la Cour constitutionnelle. Que vont-ils nous proposer si jamais cette deuxième chambre était créée et que les gens ne sont toujours plus satisfaits par des arrêts rendus par la deuxième chambre? On va encore nous proposer de créer une troisième chambre. Donc, je ne pense pas que ce soit ça la solution. La solution, c'est comme l'honorable Lutundu Lala l'a dit, c'est au niveau des hommes. Donc, nous devons mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il n'est pas question de créer troisième chambre, puis on créera quatrième chambre, puis on créera cinquième chambre. Non, ce n'est pas ça.
Et parce que vous estimez, vous, Jean, que les gens seront toujours insatisfaits de toutes les manières. Après chaque arrêt, on aura toujours des satisfactions. Monsieur Christophe Lutundula, est-ce que vous pensez, comme il l'a dit, le problème, c'est qu'on peut avoir une deuxième chambre, mais si l'homme qui va être à la deuxième chambre n'a pas changé que celui de la première chambre, on risque d'avoir le même problème aujourd'hui, mais parce que la question de la moralisation de... Merci beaucoup, Jean. La question de la moralisation de l'espace politique, c'est une question qui a été aussi évoquée, commentée plusieurs fois. C'est un problème de conscience. Il y a un auditeur qui l'a dit, c'est vraiment un problème de conscience.
Je dirais même de la moralisation de la société en général, hein, vous comprenez. Alors, merci, il faut recadrer les choses. Je vous remercie d'avoir mis fin pratiquement au débat sur l'erreur matérielle. Hein? Parce qu'effectivement, quand vous lisez l'article 74, alinéa dernier, les juridictions saisies peuvent être toutefois, donc saisies de recours, à la requête de parties ou du ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leur décision ou donner interprétation toutes les parties entendues. Et l'article 75 dit, si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Elle communique la décision à la Commission électorale nationale indépendante. Vous comprenez? Donc la loi aussi n'est pas très précise. Je vous ai dit dès le départ que sur le plan purement technique, le plan de droit, le plan doctrinaire, le concept erreur matérielle tel que c'est appliqué ici donne lieu à discussion, est sujette à caution. Exact. Donc ne discutons plus de ça. Il y a une réalité, il faut la saisir et l'intégrer dans l'ordre du droit. Vous voyez? Et c'est sous ce point-là que je rejoins la question de tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de confusion. Il faut toujours un cadre institutionnel minimal. Les lois et les organes, les structures pour agir. Vous ne pouvez pas avoir des députés sans qu'il y ait un parlement, une assemblée nationale et ainsi de suite. Donc, il faut conjuguer les deux démarches. D'un côté, là, on peut encore remettre les choses en ordre, sur le plan législatif, sur le plan normatif, sur le plan du cadrage institutionnel, il faut le faire. Et de l'autre, il faut alors la composante humaine du cadre de travail, il faut la retoucher. Et on peut pas discuter. à ce qui me concerne, tenez-vous bien que dans ce qui se passe maintenant, les plus humiliés, les plus ridicules à la limite, ce sont les juristes, je le suis, les magistrats, je suis un ancien magistrat, et les dirigeants, surtout les dirigeants institutionnels. Donc on ne peut pas discuter de ça. Ce que je fais remarquer aux compatriotes est que tel que nous avons mis notre système d'administration de la justice, c'est verrouillé. Si vous voulez révoquer un magistrat, vous le changez. Il faut passer par le Conseil supérieur de la magistrature, qui malheureusement se transforme parfois en organe, en institut corporatif. Vous comprenez? Et le haut magistrat, c'est pas facile de le sanctionner. Le cas ici de la Cour, parce qu'on a parlé aussi de la sanction. Il y a une question de quoi les journalistes ici. Je dois dire que c'est pas facile. Il y a des procédures. Et il se trouve, par exemple, que je ne prête pas des intentions négatives à la personne ou à l'organe. Le Conseil supérieur de la magistrature est constitué principalement de hauts magistrats et présidé par le président de la Cour constitutionnelle. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais ce sont des éléments qu'il faut tenir, qu'il faut intégrer, dont il faut tenir compte si on veut être sérieux, objectif. Je ne fais pas un discours de démagogie ou de campagne, vous comprenez? Donc, moi je dis que, un, il faut revoir les instruments de travail. Deux, il faut qu'au niveau de la moralisation, au niveau de la composante humaine, qu'il y ait des ajustements. Et la première démarche, c'est de demander au magistrat de démissionner. Et c'est pour cela que moi, j'ai félicité, et j'ai continué à féliciter Jean-Louis Sambo et le professeur Baniakou. Rappelez-vous, il y a une année ou deux, qui ont estimé que le cadre humain, psychologique, le contexte ne leur permet plus de travailler, et ils ont rendu le tablier. Le professeur Vundoave a été évacué, entre guillemets, mais c'est moi qui prends ça comme ça, il est allé au Conseil d'État, bon, ça semble donner du temps, et c'est ça, il y a ça. Et le président Luamba, lorsqu'il sort de l'audience de chez le chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit? S'il y a de cas infractionnels, de faits de corruption, on va sanctionner. En fait, il voulait dire que il faudra aussi que dans la démarche, nous soyons en mesure de saisir la faute. Qu'est-ce que je veux dire par saisir la faute? Quel est le magistrat qui a été corrompu et comment le prouver? Je n'émets pas un jugement de valeur pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Parce que telles que les choses se sont faites, où vous trouvez une liste de députés saisis à l'ordinateur, au moment de la lecture, on voit qu'on a, on a raturé ça et on met le nom de quelqu'un à la main. Alors que la Cour pouvait demander 24 heures ou 48 heures pour sortir une liste bien saisie, signée par le président et ça. Où vous trouvez, il y a quelqu'un qui a dit ça, un député de telle circonscription qui est revalidé sur son recours pour une autre circonscription. Un député qui n'a pas fait l'objet,
qui n'a pas été attaqué, contesté, justice, contesté,
et puis il n'est pas sur la liste.
Donc,
tout cela en définitive, cher ami, démontre que la procédure d'erreur matérielle n'est pas la mieux adaptée. Tout cela démontre qu'il faut créer la chambre d'appel. Et à l'auditeur qui a dit 4, 5, non, là il a biaisé. Il y a une nécessité technique, le droit de recours reconnu par la Constitution à chaque citoyen, et je vous ai cité tout un tas d'instruments juridiques, il y a aussi, sur le plan technique, l'idée que l'erreur matérielle ne peut pas aller au-delà et nous amener à la rectification du fond de l'acte, si vous voulez, judiciaire.
Alors, parce qu'on va terminer, il nous reste presque une minute et demie, on revient sur la question de la CENI. On sait chaque fois quand il y a des réformes, s'il faudrait aujourd'hui prendre des discussions pour ça, combien de fois avec les débats, ça peut vous prendre autant de jours à l'Assemblée nationale, mais les temps aussi ne jouent pas à notre faveur, parce qu'avoir les prochaines élections, ce n'est pas longtemps. Et qu'est-ce qui vous reste encore à dire aux députés, parce que les débats doivent être apportés à l'Assemblée nationale pour qu'on accepte ce réforme. Qu'est-ce qui vous reste encore à leur dire, parce que bientôt ça sera des prochaines élections et on a besoin de cette réforme de la CENI.
Je ne me fais pas des illusions. Ça sera une bataille très dure. Et avec mon expérience, je ne crois pas que ça va passer comme une lettre dans une boîte à lettres. Mais je placerai chacun devant ses responsabilités. Dans les jours qui viennent, je vais déposer ma proposition de loi. Deux, j'interpelle le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que lorsqu'on s'inspire de l'article 53 de la loi sur la CENI, le bureau de l'Assemblée nationale a un rôle clé. Le bureau doit intervenir pour recadrer les choses, donner le tempo et fixer l'agenda. Je voudrais dire aussi que il faut compléter ça avec d'autres réformes. J'espère que l'occasion sera donnée pour qu'on parle de la révision de la loi électorale, la question du seuil, la question du mode électoral, la question de suppléance, la question de recours, on a parlé, la question de la compilation, la fameuse machine à voter, et ainsi de suite. Nous allons aborder.
Et cette façon-là, on a oublié un peu la machine à voter. Hein.
Ouais.
On va s'appeler de la veille des élections.
Il faut qu'on en parle. Le mode électoral, d'un mot, il faut qu'on change. Le mode actuel ne permet pas d'avancer. Il faut prendre le scrutin.
Merci beaucoup.
Uninominal, majoritaire simple.
Merci beaucoup, Monsieur Christophe Lutundula, député national. Merci. Hein. On sent qu'il faut encore revenir encore dans le débat pour voir de quelle manière toutes ces réformes peuvent-elles être menées. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Gilles Lungembo. Pour moi, c'est un plaisir de vous l'avoir présenté. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Merci et au revoir.